La voix des notaires. Chers auditeurs de Radio Grand Ciel, vous écoutez La Voix des Notaires, une émission animée par votre serviteur Pierre-Alain Bénard, avec à la technique Simon Martin. Nous recevons Maître Louis Marcel, notaire à Chartres. Bonjour Louis.
Bonjour Pierre-Alain.
Et aujourd'hui, nous allons vous proposer de parler des plus-values immobilières et plus précisément des biens qui sont exonérés. Dieu merci, il y a des biens exonérés, tout n'est pas taxé en matière de plus-value immobilière lorsque l'on vend un bien immobilier, que ce soit un appartement, une maison, un terrain. Il y a des biens dits exonérés, très particuliers, que nous allons voir. Lors de notre dernière émission avec Maître Marcel, nous avions évoqué les spécificités de cette loi de finances pour 2015, qui fixait un régime particulier et provisoire, naturellement, parce qu'on est en matière fiscale, pour les terrains à bâtir. Aujourd'hui, donc, les biens exonérés. Louis, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus?
Alors, le principe, si vous voulez, c'est que dès lors que l'on réalise une plus-value, c'est-à-dire qu'en gros, on vend plus cher que l'on l'a acheté, et qu'on est un particulier, on est soumis à une fiscalité qui est donc l'impôt de plus-value. Il est aujourd'hui retenu à la source, qui est un taux unique, forfaitaire, et qui, avec les prélèvements sociaux, s'élève à peu près aujourd'hui à 34,5% de la plus-value réalisée. Alors ça, c'est le principe. Et après, le texte procède par voie d'exonération. Et des exonérations, il y en a enfin plusieurs types, selon... la qualité du vendeur. Il y a des vendeurs qui sont exonérés, certaines personnes âgées, les collectivités, les personnes publiques, etc. Il y a des exonérations liées à l'écoulement du temps. Ce sont les fameux 22 ans, l'abattement de 20, qui permet qu'au bout de 22 ans, l'on soit exonéré, et de 30 ans pour les prélèvements sociaux. Et enfin, il y a des exonérations liées aux biens. Qui est vendu. Et donc ces exonérations, il y en a qui sont très importantes, par leur fréquence, hein, et puis il y en a qui sont un petit peu plus confidentielles et qui néanmoins peuvent trouver à s'appliquer dans certains cas particuliers.
Oui, alors ça, en fait... On retient tous, la résidence principale est exonérée.
Alors, quand je disais exonération qui trouve à s'appliquer très fréquemment, je pensais bien évidemment à celle-ci. Puisque une majorité des ventes qui se font en France par les personnes privées concernent les résidences principales.
C'est la règle.
C'est quand même la vente la plus fréquente. Et là, fort heureusement, il y a une exonération complète, absolue, de la vente.
Résidence principale au jour de la vente.
Alors, c'est celui-ci, en effet, c'est qu'il faut que ce soit la résidence principale au jour de la vente pour le vendeur. Mais la loi introduit un certain nombre de règles particulières qui sont faites pour avoir quand même une vision un petit peu réaliste des choses. Il est parfois difficile de vendre sa résidence principale et puis de racheter tout de suite immédiatement dans l'instant T sa nouvelle résidence principale. Donc il y a un certain nombre de règles qui tiennent compte des difficultés, de cas concrets qui peuvent relever en effet de difficultés ou tout simplement de coordination un petit peu délicate pour les vendeurs et qui vont faire que on va quand même pouvoir profiter de l'exonération résidence principale même si à l'instant T le bien n'est plus concrètement affecté à la résidence principale. On pense à la vente dans le cadre d'une séparation familiale par exemple. Il y a un certain nombre de tempéraments. Il y a la vente aussi d'un bien alors qu'on a déjà acheté sa nouvelle résidence principale. Bon, eh bien, il y a un délai raisonnable qui est qui est donné, enfin, l'administration considère qu'il y a un délai raisonnable qui est accordé pour vendre le bien qui était anciennement la résidence principale. Enfin, il y a toute une série de dispositions.
De tempérament,
voilà, pour coller, entre guillemets, à la réalité et ne pas faire que des gens de bonne foi qui sont, j'allais dire, soumis à des aléas tout à fait indépendants de leur volonté, se retrouvent taxés totalement injustement.
On peut résumer en disant que, malgré tout, il y a sur ce plan-là une certaine clémence du législateur.
Voilà.
De l'administration fiscale.
Et heureusement, je suis sans
une fois, dire. Hein, bon. Alors, Louis, vous avez commencé à nous aborder tout à l'heure, de dire, mais ça, c'est la règle, bien sûr, mais il y a aussi un certain nombre de biens qui sont exonérés. Je pense notamment en matière d'expropriation.
Voilà. Alors, ça, c'est aussi une règle un petit peu particulière, puisque, encore une fois, tout le monde ne subit pas une expropriation, dans sa vie, et fort heureusement d'ailleurs. Donc l'expropriation, on rappelle, c'est en fait un transfert de propriété subi.
Voilà.
C'est-à-dire qu'on nous impose,
d'accord,
pour des raisons d'utilité publique, d'intérêt général, on nous impose d'abandonner un bien dont on est propriétaire.
Alors, expropriation, oui. Mais il faut qu'il y ait une condition de
remploi.
On est bien d'accord, il y a une condition.
C'est-à-dire que dans ce cas-là, quand il y a une expropriation, il y a le principe de la juste et préalable indemnité que doit verser l'autorité expropriante, qui peut être une collectivité ou une émanation d'une collectivité. Et donc cette indemnité qui, sur le principe, devrait être soumise à plus-value, à la position de plus-value, eh bien ne l'est pas dès lors qu'on s'engage à réemployer le prix de l'indemnité obtenue dans l'achat d'un nouveau bien.
Alors, Louis, il y a une disposition là qui peut être intéressante aussi, c'est la résidence secondaire,
voilà,
pour acquérir une résidence
alors,
principale.
Alors voilà, ça c'est un dispositif qui a 4-5 ans maintenant et qui peut trouver à s'appliquer dans des cas, un petit peu particuliers, mais finalement pas si rare que cela. C'est l'hypothèse où le vendeur est propriétaire d'un bien qui n'est pas sa résidence principale, d'un bien qui était loué, d'un bien qu'il a hérité par donation ou succession. Et ce vendeur, qui n'est pas propriétaire de sa résidence principale, vend ce bien en s'engageant à réaffecter dans un certain délai le prix obtenu dans l'achat de sa résidence principale.
Donc il y a les critères de délai.
Voilà, il y a les critères de délai. C'est-à-dire que le principe, c'est qu'il ne faut pas avoir été propriétaire de sa résidence principale dans les 4 ans qui précèdent la vente du bien, et il faut s'engager à réemployer dans les 2 ans qui suivent
le prix dans les deux ans.
Voilà. Ça, c'est un dispositif qui peut trouver tout à fait à s'appliquer. Alors, il y a aussi un dispositif pour les petites ventes. Oui, tout simplement, la loi dit qu'en deçà d'un certain seuil de prix, l'administration fiscale...
Qu'est-ce que c'est qu'une petite vente ?
Alors, c'est 15 000 euros.
Mais alors attendez, 15 000 euros, voyons, il y a 3 frères et sœurs qui sont propriétaires d'un bien, et s'ils le vendent 45 000 euros, ça va marcher ?
Ça va marcher parce que c'est par tête.
D'accord.
Alors
ah,
qu'il
oui.
y a une indivision,
d'accord.
Les 15 000 euros s'apprécient par tête. Donc ça marche parfaitement.
Malheureusement, pour 15 000 euros, aujourd'hui, on n'a plus grand-chose.
Voilà, comme disait le proverbe.
Of a puzzle, it took her 365 days putting them together. The pieces were quite difficult to distinguish from each other. They were tiny, and the clear blue sky went on forever. Clearly, the corners were an easy start. That was when everyone was still helping me out. Then it was time to fill in the frames they left. They thought I ought to have gotten over you by then.
Nous avons vu la résidence principale, nous avons vu l'expropriation, nous avons vu les petites ventes, c'est-à-dire le prix est inférieur ou égal à 15 000 euros. Toujours en matière de biens exonérés, nous avons vu le cas de la vente de la résidence principale, de la résidence secondaire, excusez-moi, pour acquérir une résidence principale, voilà, avec des critères de délai. Est-ce qu'il y a aussi, en matière de, pour les maisons de retraite, il y a quelque chose, voilà, pour les gens qui vendent. Qui vendent pour payer une résidence, voilà, maison de retraite.
Voilà, la vente d'un bien, enfin de la résidence principale de la personne pour payer la, enfin en vue d'un placement en maison de retraite, donne lieu à une exonération dès lors que, en fait, il s'agit de l'ancienne résidence principale de la personne.
Oui, c'est ça. Il s'est passé du temps. Voilà. La personne est allée en maison de retraite et puis la vente intervient plusieurs années
après. À la limite, la maison peut avoir été louée entre-temps.
Ah oui, oui, on n'est plus vraiment en résidence principale,
non,
du tout.
Ça l'a été, ça l'a été, mais on revend le bien. Et c'est vraiment un cas un peu particulier.
Alors, c'est un cas particulier, mais il y a encore des règles encore plus restrictives, parce qu'il ne faut pas que la personne paie l'impôt sur la fortune.
Voilà. Il faut que c'est réservé aux contribuables, comme on dit souvent, aux contribuables modestes, c'est-à-dire la personne qui n'est pas assujettie à l'ISF et qui, en fait, est également, qui a un revenu fiscal qui est inférieur à un certain niveau, enfin, un certain niveau qui est actualisé chaque année. D'accord. En gros, une personne non imposable.
À ce moment-là, elle bénéficie de cette exonération.
Il y a aussi une exonération qui n'est pas très connue, qui peut trouver à s'appliquer parfois. C'est la vente à un organisme HLM. Quand vous vendez un bien à un organisme HLM, vous avez une exonération de plus-value.
Sur la totalité du prix.
Sur la totalité du prix, oui.
Ah, et ça, c'est pas inintéressant.
Alors bon, c'est un cas un peu particulier.
Oui, c'est un cas particulier, mais enfin, quand on voit l'action aujourd'hui des offices...
Voilà, qui cherchent à acquérir du foncier déjà bâti. Oui. Respecter les critères de la loi Allure, ça peut être je l'ai appliqué à titre personnel récemment, et c'est ce qui a permis que la vente se fasse.
Oui, ça facilite même la vente.
Évidemment. Que le vendeur est même prêt à faire un geste sur son prix, eu égard à cette exonération.
Ça crée effectivement une motivation supplémentaire.
On est d'accord.
Dernier point, mais c'est peut-être marginal, bien que même en Beauce, en Eure-et-Loire en tout cas, nous ayons le cas de temps à autre, il y a une exonération pour certains contribuables non résidents.
Oui. Tout à fait. En gros, quand on dit non résident, c'est non résident français, fiscaux français, hein, c'est-à-dire des gens qui payent à titre principal leur impôt sur le revenu à l'étranger. Eh bien, en fait, il y a un certain nombre d'exonérations qui permet un alignement un peu ou prou du non résident sur le résident.
C'est entendu. Eh bien, chers auditeurs, vous savez presque tout sur les biens exonérés de taxation sur les plus-values immobilières. Et pour en savoir encore plus, naturellement, vous pouvez toujours vous rapprocher de votre notaire. Sachez que La Voix des Notaires est diffusée sur Radio Grand Ciel deux fois par semaine, les mercredis à 16h15 et samedi à 15h. Et puis, à tout moment et à n'importe quel endroit de la planète, vous pouvez nous retrouver sur Internet, sur le site Internet de Radio Grand Ciel, pour écouter votre émission peut-être préférée. Chers auditeurs, bonne écoute de Radio Grand Ciel et à bientôt.
I walked into